Chapitre 24. Ah, d'accord. Maintenant je comprends. Je ne suis pas un intrépide explorateur qui aurait choisi de se sacrifier pour sauver la Terre. Je ne suis qu'un homme terrifié qu'on a traîné par la peau des fesses jusqu'à la rampe de lancement. Je suis un lâche. Tout cela me revient en un éclair. Assis sur un tabouret, je fixe la table du laboratoire du regard. Il y a quelques instants seulement, j'étais presque hystérique et maintenant... Maintenant, c'est presque pire. Je suis sonné. Un lâche. Je sais depuis un certain temps que je ne suis pas le meilleur espoir pour sauver l'humanité. Je ne suis qu'un type ordinaire possédant les gènes qui permettent de survivre à un coma prolongé. J'ai admis ce fait il y a longtemps. Je ne savais pas que j'étais un lâche, cependant. Je me rappelle les émotions, la panique intense. Je me souviens de tout. La terreur pure, absolue. Non pas pour la Terre, pour l'humanité ni pour les enfants, mais pour mon propre sort. Une panique totale. « Maudite Strat !» marmonnai-je. Ce qui m'embête le plus, c'est qu'elle avait raison. Son plan a fonctionné à la perfection. J'ai recouvré la mémoire, mais je vais quand même tout faire pour accomplir ma mission. C'était évident. Qu'aurais-je pu faire d'autre? Laisser 7 milliards de gens mourir pour me venger de Strat? J'entends Rocky marcher dans son tunnel au plafond du labo. J'ignore depuis combien de temps il est là. Il n'était pas obligé de me rejoindre. Il aurait pu rester dans la salle de contrôle, se contenter de suivre les événements grâce à son sonar. Et pourtant il est venu.
« Grande tristesse, question ?»«
Ouais. »«
Moi, grande tristesse aussi, mais pas pour longtemps. Vous, scientifique, moi, ingénieur, ensemble réussir. »«
Comment ?» demandai-je en jetant les bras en l'air de frustration. J'entends ses pattes cliqueter au-dessus de moi comme il se rapproche.
Tomib mangeait tout notre carburant. Tomib survivre et se reproduire dans réservoir de carburant.
Et?
En général, vie pas survivre hors atmosphère propre. Moi mourir hors air aride. Vous mourir hors terre air. Tomib vivre hors air Adriane. Tomib plus forte que vie aride. Plus forte que vie terre.
« C'est vrai, » acquiesçai-je en levant la tête pour le voir. « Les astrophages sont costauds aussi. Ils vivent dans le vide et à la surface des étoiles. »«
Oui, oui, »
confirme-t-il en entrechoquant deux de ses pinces.
« Astrophages et Tomib originaires même biosphère, probablement ancêtres communs. Vie Adriane très forte. »«
Oui, c'est vrai, » dis-je en me redressant.
« Vous avoir idée, vous avoir nouvelle idée. » « Expliquez vite. »«
Eh bien, » commençai-je dans un soupir. « Vénus, Monde 3 et Adriane ont pas mal de dioxyde de carbone. Sur les trois planètes, les astrophages se reproduisent là où la pression est égale à 0,02 atmosphère. Je devrais commencer par vérifier si les tomibes survivent dans une chambre pleine de dioxyde de carbone à 0,02 atmosphère. Après, j'ajouterai des gaz 1 à 1 pour déterminer lequel pose un problème.
Compris.
Je me lève et époussette ma combinaison. Vous allez devoir me fabriquer une nouvelle chambre à test. En xénonite transparente, avec des valves pour ajouter ou extraire des gaz. Je vais aussi avoir besoin de régler la température à moins 100, moins 50 ou moins 82 degrés Celsius. Je pourrais utiliser mon propre équipement. Mais pourquoi ne pas profiter d'un matériau et d'une compétence supérieure?
Oui, oui, fabriquer tout de suite. Nous former équipe, nous trouver. Tristesse terminée.
Il file dans son tunnel en direction du dortoir. La poussée principale se terminera dans 34 minutes, annonçai-je en regardant ma montre. Après cela, nous utiliserons les scarabées pour activer le mode centrifugeuse.
Dangereux,
commente Rocky en se figeant. Je sais, mais nous avons besoin de pesanteur pour le labo, et je ne veux pas attendre 11 jours de plus. Notre temps est précieux.
Scarabée positionné pour pousser, non pas rotation.
C'est la vérité. Notre système de propulsion est pour le moins rudimentaire.
Nous n'avons ni cerveau moteur, ni cardan pour orienter la poussée. Le dernier chant, c'est comme un bateau du XVIe siècle avec des scarabées pour voile. Non, même pas. Les bateaux pouvaient au moins incliner leur voile. Nous ressemblons davantage à un bateau équipé d'une roue à aubes dont le gouvernail serait cassé. Ce n'est pas si grave, cependant. Nous avons la possibilité de contrôler plus ou moins notre orientation en variant l'intensité de la poussée de chaque moteur. C'est ce qui a permis à Rocky de stopper notre rotation. Ça vaut la peine de prendre le risque. Il revient à toute vitesse vers moi.
Vaisseau rotation désaxée, impossible dérouler câble centrifugeuse, risque emmêlement.
Nous créerons la rotation dont nous avons besoin, puis nous désactiverons les scarabées avant de dérouler les câbles.
Si câble non déroulé, force trop importante pour humain.
C'est un problème, effectivement. Je veux 1G de pesanteur pour le laboratoire lorsque le vaisseau sera séparé en deux parties. Pour obtenir cette inertie, alors que le navire est en un seul morceau, il faudra une rotation très rapide. La dernière fois, j'ai perdu connaissance dans la salle de contrôle, et Rocky a failli mourir en venant à mon secours. D'accord. Et si je m'installe sous le dortoir dans la réserve, je serai plus près du centre du vaisseau, la force y sera moindre, ce sera plus supportable.
Comment contrôler centrifugeuse depuis réserve? Question.
Je prendrai l'écran de contrôle du laboratoire avec moi. Je tirerai des câbles d'alimentation et de transmission de données jusqu'en bas. Ouais, ça devrait fonctionner.
Si vous perdre connaissance, incapacité manipuler contrôle.
Vous annulerez la rotation et je me réveillerai.
Mauvais plan,
proteste-t-il en s'agitant d'avant en arrière.
Plan substitution, attendre 11 jours. Rejoindre vaisseau Éride, nettoyer réservoir vaisseau Terre, stérilisation, plus du tout Tomib, ensuite emplir nouveau carburant, alors utilisation normale vaisseau Terre.
Je ne veux pas attendre 11 jours, dis-je en secouant la tête. Je veux travailler tout de suite.
Pourquoi? Question. Pourquoi pas attendre? Question.
Il a raison, bien sûr. Je vais risquer ma vie et mettre en danger l'intégrité du dernier chance. Toutefois, je ne peux pas rester à rien faire pendant 11 jours alors qu'il y a tellement de pain sur la planche. Comment expliquer l'impatience à un être dont l'espérance de vie est de 7 siècles? C'est un truc très... humain.
Compris. Pas vraiment compris. Mais compris.
L'accélération s'est passée comme prévu. Rocky a choisi de faire faire le travail à Ringo, laissant John et Paul tranquilles. George est en sécurité à bord du vaisseau, au cas où nous aurions besoin de lui. Je ne mentirai pas. Encaisser tous ces jets n'a pas été facile. Néanmoins, je suis resté éveillé assez longtemps pour m'occuper de la mise en route de la centrifugeuse. Il faut dire que je me débrouille de mieux en mieux. Depuis, la pesanteur est stabilisée à 1G. Je concède que c'était risqué, précipité. Mais cela m'a permis de passer les jours suivants à faire de la science et rien que de la science. Rocky m'a fourni les appareils que je lui avais commandés, comme à son habitude. Et tout fonctionne parfaitement, évidemment. Au lieu d'une toute petite et peu pratique chambre à vide, j'ai eu droit à un genre de grand aquarium. La xénonite a ceci d'extraordinaire qu'elle permet de produire des plaques fines et extrêmement résistantes à la pression. La xénonite n'a peur de rien. Je dispose d'un stock, disons, inépuisable de Tomib. Le dernier chance est même devenu la boîte à la mode où se retrouvent tous les Tomib du coin. Lorsqu'il m'en faut plus, il me suffit d'ouvrir l'ancienne durite d'alimentation du générateur.
Hé, Rocky, lançais-je depuis le laboratoire. Regarde-moi sortir une Tomib de mon chapeau.
Idiome terrien, probablement,
commande-t-il en remontant de la salle de contrôle.
Ouais. Sur Terre, on a un loisir appelé télévision, qui...
Pas expliqué, s'il vous plaît. Nouvelle découverte, question.
C'est sans doute mieux comme cela. Expliquer ce qu'était un dessin animé à un éridien n'aurait pas été une mince affaire.
J'ai quelques résultats.
Bien.
Il s'affaisse,
s'asseyant confortablement.
« Moi, écoutez, résultat ?»
Il tente de contenir son excitation, mais sa voix est plus aiguë que la normale. « Au fait, ça fonctionne parfaitement, » dis-je en désignant l'expérience.
« Merci. Vous racontez résultat ?»
Pour commencer, j'ai reproduit l'environnement d'Adrian. J'y ai ajouté des taumibes et une lame couverte d'astrophages. Les taumibes ont survécu et mangé tous les astrophages.
Pas surprise. Environnement natif. Prouvé bon fonctionnement matériel.
Exactement. Mais j'ai aussi testé les limites des taumibes. Dans l'atmosphère d'Adrian, elles peuvent survivre entre moins 180 et 107 degrés Celsius. En dessous ou au-dessus, elles meurent.
Fourchette impressionnante.
En effet. D'autant qu'elles survivent même à un quasi-vide.
Comme dans réservoir carburant.
Oui, mais pas dans le vide total. Je fronce les sourcils. Elles ont besoin de dioxyde de carbone, même en très faible quantité. Et puis, j'ai reproduit l'atmosphère d'Adrian, mais j'ai mis de l'argon à la place du dioxyde de carbone. Les taumibes n'ont rien mangé. Elles sont restées dormantes. Et elles ont fini par mourir de faim.
Comme prévu. Astrophage besoin dioxyde de carbone. Taumib originaire même écologie. Taumib également besoin dioxyde de carbone. Comment trouver dioxyde de carbone dans réservoir carburant? Question.
Je me suis posé la même question. J'ai effectué une spectrographie de la bouillie des réservoirs et j'ai découvert pas mal de CO2 dissous dans le liquide.
Astrophage sans doute contenir dioxyde de carbone. Un certain pourcentage mourir dans réservoir. Toutes les cellules pas parfaites. Défauts, mutations, certaines mourir. Astrophage mort libérer dioxyde de carbone dans réservoir.
Je suis d'accord.
Bonne découverte,
conclut-il en commençant à redescendre. Attendez, ce n'est pas fini, loin de là.
Pas fini, question?
Demande-t-il en se figeant.
Bien.
Je m'appuie sur la table du laboratoire et tapote le réservoir. J'ai reproduit Vénus là-dedans. Enfin, pas tout à fait. L'atmosphère de Vénus contient 96,5% de dioxyde de carbone et 3,5% d'azote. J'ai commencé avec uniquement du dioxyde de carbone, ce qui n'a pas du tout dérangé les taumibes. Et puis, j'ai ajouté de l'azote et elles sont toutes mortes.
Toutes mourir, question?
S'étonne-t-il en redressant sa carapace.
Soudainement, question?
Oui, en quelques secondes, toutes.
Azote, très inattendu.
Ouais, carrément. J'ai recommencé l'expérience avec l'atmosphère de Monde 3. D'abord avec seulement du dioxyde de carbone. Les taumibes étaient en pleine forme. J'ai ajouté du dioxyde de soufre et les taumibes l'ont très bien supporté. Et puis, j'ai ajouté de l'azote. Et là, boum, elles sont toutes mortes. Rocky tapote sur la paroi de son tunnel d'un air absent.
Très, très inattendu. Azote inoffensif pour vie aride. Azote nécessaire pour beaucoup vie aride.
Pareil sur Terre. L'air terrien est constitué d'azote à 70%.
Grande confusion.
C'est le moins qu'on puisse dire. Je suis tout aussi stupéfait que lui. Nous pensons tous les deux à la même chose. Si toute la vie provient d'une même source, comment l'azote peut-il être nécessaire dans deux biosphères et toxique pour une autre? L'azote est parfaitement inoffensif et quasi inerte sous sa forme gazeuse. Il se contente généralement de rester du N2 qui ne réagit que très rarement avec d'autres éléments. Le corps humain s'accommode parfaitement d'inspirer 78% d'azote. Quant à l'atmosphère d'Éride, elle est constituée d'une grande majorité d'ammoniac, qui est un composé d'azote. Comment a-t-il pu y avoir panspermie sur la Terre et Éride, deux planètes bourrées d'azote, si une toute petite quantité d'azote peut tuer cette forme de vie? En réalité, la réponse est évidente. La forme de vie à l'origine de la panspermie n'avait pas de problème avec l'azote. Au contraire de la taumibe qui a évolué plus tard. La carapace de Rocky s'affaisse.
Situation grave. Atmosphère monde 3, 8% azote.
Je m'assieds sur le tabouret du laboratoire et croise les bras. Pareil pour nous.
L'atmosphère de Vénus est constituée de 3,5% d'azote.
Il s'affaisse encore plus et reprend la parole d'une voix extrêmement grave.
Sans espoir, impossible changer air monde 3, impossible changer air Vénus, impossible changer Tomib, sans espoir.
C'est vrai qu'on ne peut pas changer l'air de Vénus et monde 3, mais on peut peut-être changer les Tomib.
Comment ? Question.
J'attrape ma tablette sur le plan de travail et fais défiler les notes que j'ai prises sur la physiologie éridienne. Les éridiens ont-ils des maladies, des pathologies à l'intérieur du corps?
Un peu. Très très triste.
Comment votre corps tue-t-il les maladies?
Corps éridien fermé. Ouverture seulement pour manger ou pondre. Après fermeture, zone intérieure du corps chauffée fort par sang pendant longue période. Tuer maladie. Autrement maladie entrée seulement par blessure. Très grave. Corps confiné zone infectée. Chauffé avec sang pour tuer maladie. Si maladie rapide, éridien mourir.
Pas de système immunitaire, seulement de la chaleur. Pourquoi pas en effet? Le système circulatoire chaud d'un éridien fait bouillir de l'eau pour animer ses muscles. Pourquoi ne pas l'utiliser également pour cuire et stériliser la nourriture? Avec des oxydes lourds, de la pierre pour faire simple pour peau, les coupures et abrasions sont rares. Même leurs poumons ne pratiquent aucun échange avec l'extérieur. Lorsqu'un pathogène pénètre le corps par accident, celui-ci isole la zone concernée et la chauffe à l'extrême. Le corps d'un éridien est une forteresse quasi impénétrable. Le corps humain, lui, s'apparente davantage à un état policier sans frontières. Les humains sont très différents. Nous tombons malades tout le temps, mais nous avons un système immunitaire très puissant. Et puis, nous trouvons dans la nature des remèdes à nos maladies. On les appelle antibiotiques.
Pas comprendre. Remèdes contre maladies dans nature? Question. Comment? Question.
D'autres formes de vie ont développé des défenses contre ces mêmes maladies. Elles émettent des substances chimiques qui tuent les maladies sans faire de mal aux autres cellules. Les humains mangent ces substances qui tuent les maladies sans nous faire de mal.
Stupéfaction. Procédé inconnu sur Éride.
Ce n'est pas un système parfait, cependant. Les antibiotiques marchent très bien au début, mais au fil des années, ils perdent en efficacité. Jusqu'au jour où ils ne fonctionnent presque plus du tout.
Pourquoi ? Question.
Les maladies évoluent. Les antibiotiques tuent presque toutes les maladies dans le corps, mais certaines survivent. En usant des antibiotiques, les humains apprennent sans le vouloir aux maladies à survivre.
Ah !
S'exclame-t-il en soulevant légèrement sa carapace.
Maladie crée défense contre agents chimiques qui tuent maladie.
Absolument. Imaginons que la Tomib est une maladie, poursuis-je en désignant la cuve, et que l'azote est un antibiotique. Rocky réfléchit et sa carapace reprend sa position normale.
Compris. Faire environnement légèrement mortel. Élever Tomib qui survivent. Rendre environnement plus mortel. Élever survivants. Recommencer, recommencer, recommencer.
Oui. Nous n'avons pas besoin de comprendre pourquoi et comment l'azote tue les Tomib. Simplement d'élever des Tomib qui lui résistent.
Oui.
Bien. Il me faut 10 cuves comme celle-ci. Mais plus petites, demandai-je en mettant une claque sur l'aquarium. Prévoyez également un moyen de prélever des échantillons de Tomib sans interrompre l'expérience. Et un système d'injection de gaz très précis. J'ai besoin de contrôler exactement la quantité d'azote injectée dans la cuve.
Oui, fabriquez, fabriquez immédiatement.
Et il file aussitôt dans le dortoir. Je vérifie les résultats du spectrographe et secoue la tête. Ce n'est pas bon. C'est même un échec total.
Très triste.
Peut-être pourrais-je filtrer les toxines ? Me demandai-je en posant le menton sur la main.
Peut-être préférable concentrer sur Tomib,
propose Rocky d'une voix gazouillante. Ce ton gazouillant est le signe d'une impatience narquoise. Je l'entends très souvent ces derniers temps. Elle se débrouille très bien toute seule, dis-je en me tournant vers les cuves de production de Tomib alignées le long d'une paroi. Il n'y a rien à faire d'autre qu'attendre.
On a déjà eu de bons résultats. Elles survivent à 0,01% d'azote. La prochaine génération résistera peut-être à 0,015%.
Perte de temps et perte de nourriture pour moi.
J'ai besoin de savoir si je peux manger votre nourriture.
Vous mangez votre nourriture?
Il ne me reste que quelques mois de vraie nourriture, alors que votre vaisseau contient de quoi nourrir 23 Iridiens pendant des années. Les formes de vie de nos deux planètes utilisent les mêmes protéines. Peut-être suis-je capable de digérer votre nourriture?
Pourquoi vraie nourriture, question? Exister nourriture non vraie, question?
Je vérifie une nouvelle fois les résultats. Pourquoi la nourriture iridienne contient-elle tant de métaux lourds?
La vraie nourriture est celle qui a bon goût, celle qui est agréable à manger. Exister nourriture non agréable, question?
Oui, la bouillie que me dispensait le vaisseau lorsque j'étais dans le coma, par exemple. J'en ai suffisamment pour tenir presque 4 ans.
Vous mangez elle?
Elle n'est pas bonne.
Goût nourriture pas très important?
Hé! M'emportai-je en le pointant du doigt. L'expérience culinaire est très importante pour les humains.
Humains bizarres.
Pourquoi y a-t-il du thallium dans la nourriture iridienne? L'interrogeai-je en désignant les résultats de la spectrographie.
Thallium très sain.
Le thallium est un poison pour les humains.
Alors, manger nourriture humaine?
Je m'approche des cuves de Tomib. Rocky s'était surpassé. Je peux contrôler la concentration d'azote à une partie par million près. Et pour l'instant, l'expérience se passe bien. Bien sûr, cette génération n'est capable de supporter que très peu d'azote. Mais ce très peu est supérieur à celui de la génération précédente. Le plan fonctionne. Les Tomib développent une résistance à l'azote. Seront-elles jamais capables de résister aux 3,5% de Vénus ou aux 8% de Monde 3? Qui sait? Qui vivra verra. J'utilise les pourcentages pour mesurer l'azote. C'est possible uniquement parce que les astrophages se reproduisent dans une pression égale à 0,02 atm. Comme la pression est la même dans toutes les expériences, il m'est possible de comparer les pourcentages d'azote. Dans l'idéal, il aurait fallu mesurer la pression partielle. Ça aurait été ennuyeux cependant. Et puis, ce serait revenu à diviser par 0,02 atm avant de multiplier par 0,02 atm une fois les données recueillies. Je tapote sur le couvercle de la troisième cuve. Sur 23 générations de Tomib, la cuve numéro 3 a produit la souche la plus résistante 9 fois. C'est plutôt pas mal quand on considère que Madame est en concurrence avec 9 autres cuves. Oui, j'ai bien dit Madame, mais ne me jugez pas pour cela. Dans combien de temps atteindrons-nous le spot A?
Encore 17 heures avant poussée inverse.
Je propose de stopper la centrifugeuse maintenant, au cas où on rencontrerait des problèmes imprévus.
D'accord. Moi aller dans salle de contrôle. Vous allez dans réserve avec moniteur et rallonge-câble. Surtout, restez couché.
Je jette un coup d'œil autour de moi. Tout me semble bien accroché. Ça marche. Faisons-le.
John, Paul, Ringo, désactivé,
annonce Rocky.
Vélocité orbitale.
Impossible de rester stationnaire dans un système solaire. On tourne forcément autour de quelque chose. Dans ce cas précis, Rocky a réduit notre vélocité de croisière pour nous mettre en orbite à 1 UA de Tau Ceti, c'est-à-dire là où il a laissé le spot A. Rocky se détend dans son bulbe de la salle de contrôle. Il raccroche les boîtes à leurs supports muraux. À présent que les moteurs sont éteints, nous sommes de nouveau en apesanteur, et il aurait été dangereux de laisser ces boîtiers de commande flotter librement dans le vaisseau. Rocky attrape quelques poignées et stabilise sa carapace au-dessus de son moniteur, qui affiche sous la forme de texture les couleurs de mon moniteur principal.
Venir dans salle de contrôle.
Il a fait sa part du travail. À moi de jouer maintenant. Combien de temps avant l'éclair? Demandai-je.
Prochain éclair dans 3 minutes 7 secondes,
répond-il en décrochant une horloge iridienne de la paroi.
Bien.
Rocky n'est pas un rigolo. Il a programmé son vaisseau pour que ses moteurs s'activent pendant une fraction de seconde toutes les 20 minutes, créant un signal dont nous avons fortement besoin. Il est assez facile de calculer où devrait se trouver le vaisseau. Cependant, la force de gravitation des autres planètes, le calcul imprécis de notre vélocité précédente, la gravitation de Tau Ceti... Bref, ce sont plein d'erreurs qui finissent par s'additionner, et la plus petite concernant la position d'un objet tournant autour d'une étoile peut résulter en une énorme distance à parcourir. Au lieu d'espérer que les rayons de Tau se reflètent sur la coque du spot A, Rocky a préféré générer cet éclair particulier. Tout ce que j'ai à faire, c'est regarder avec le pétrovascope. L'éclair sera très intense.
Quelle tolérance aujourd'hui, question?
Il y a des survivantes à 0,6% dans la cuve numéro 3 aujourd'hui. Je suis en train de les multiplier.
Quel écart, question?
Cette conversation, nous l'avons eue des dizaines de fois. Je comprends qu'il soit si curieux. La survie de son espèce dépend de nos découvertes.
Rocky parle de la quantité d'azote injectée dans les différentes cuves. Cette quantité diffère d'une expérience à l'autre, et nous avons d'un commun accord choisi de parler d'écart. En effet, pour chaque génération, j'essaye 10 pourcentages d'azote différents. J'ai décidé d'être un peu plus agressif. L'écart est de 0,05%.
Très bien, acquiesce-t-il.
Les 10 cuves accueillent donc des taux MIB 0,6. Appelées ainsi en raison de la concentration d'azote qu'elles sont capables de supporter. La cuve numéro 1 contient toujours mon groupe de contrôle et une atmosphère à 0,6% d'azote. Les taux MIB 0,6 devraient s'y sentir bien. Dans le cas contraire, il faudra reprendre la souche précédente en évitant de commettre la même erreur. La cuve numéro 2 contient 0,65% d'azote. La cuve numéro 3 en contient 0,7%, et ainsi de suite jusqu'à la cuve numéro 10, qui en contient 1,05%. Les plus résistantes seront mes championnes et passeront à l'étape suivante. J'attends quelques heures pour m'assurer qu'elles sont au moins capables d'engendrer deux générations. Les tomibes se reproduisent incroyablement vite, assez vite pour manger tout mon carburant en quelques jours seulement. Si nous atteignions les pourcentages d'azote de Vénus ou de Monde 3, j'effectuerai des tests bien plus poussés.
Éclair bientôt, annonce Rocky.
Entendu.
J'affiche les données du pétrovascope sur le moniteur central. Normalement, je les relègue plutôt sur un écran secondaire, mais Rocky ne peut voir que celui-ci. Comme prévu, l'appareil ne montre qu'un fond de lumière résiduelle émise par Tau Ceti. J'incline et déplace la caméra latéralement. Nous avons délibérément pris position plus près de l'étoile que n'est censé l'être le spot A. Je tourne plus ou moins le dos à Tau Ceti afin de minimiser les risques de pollution lumineuse IR et de distinguer l'éclair sans difficulté. Le pétrovascope devrait être orienté dans la direction générale de votre vaisseau.
Compris,
acquiesce Rocky, concentré sur les textures de son moniteur.
37 secondes avant éclair.
Eh, au fait, comment s'appelle votre vaisseau?
Spot A.
Non, je veux dire, comment vous l'appelez-vous?
Vaisseau.
Il n'a pas de nom.
Pourquoi vaisseau devrait avoir nom, question?
Chez moi, les vaisseaux ont un nom, réponds-je dans un haussement d'épaule.
Quel est nom votre fauteuil, question?
M'interroge-t-il en désignant le fauteuil du pilote.
Il n'en a pas.
Pourquoi vaisseau avoir nom et fauteuil pas avoir nom, question?
Laissez tomber. Votre vaisseau s'appelle Spot A.
Évidemment. Éclair dans 10 secondes.
Entendu.
Rocky et moi nous taisons et fixons toute notre attention sur nos moniteurs respectifs. J'ai mis du temps à saisir les subtilités de son langage corporel, mais je suis désormais en mesure de dire quand Rocky s'intéresse à quelque chose de spécifique. Il incline très légèrement sa carapace vers l'objet en question et se balance imperceptiblement d'avant en arrière. En prolongeant l'axe de ce mouvement, je suis généralement capable de déterminer ce qu'il observe.
3, 2, 1, Maintenant.
À ce moment précis, quelques pixels s'embrasent sur mon moniteur.
Je l'ai vu. Moi, rien vu.
Ce n'était pas très intense. Nous devons être très loin.
Attendez.
J'active le télescope et le pointe dans la direction de l'éclair. Je fais des mouvements de va-et-vient jusqu'à repérer une légère décoloration dans les ténèbres. La lumière de tau se reflétant sur la coque du spot A.
Ouais, ce n'est pas à côté.
Scarabée, avoir encore beaucoup carburant. Dites-moi angle propulsion.
Je vérifie les chiffres en bas de l'écran. Nous n'avons qu'à aligner le dernier chance sur l'axe du télescope.
Faites pivoter notre lacet de plus 13,72 degrés et le tangage de moins 9,14 degrés. Lacet plus 1,3,72, tangage moins 9,14.
Il attrape les boîtiers de contrôle sur le mur et se met au travail. En activant et désactivant les scarabées par séquence, il dirige le vaisseau vers le spot A. Je pointe le télescope droit devant nous et je zoome pour confirmer. La différence entre la toile de fond de l'espace et le vaisseau est si faible qu'elle est à peine visible. Elle existe cependant.
Angle correct.
Il concentre toute son attention sur son moniteur.
Écran vierge,
se plaint-il.
La différence de luminosité est très très faible. Il vous faudrait des yeux humains pour la voir.
L'angle est bon. Compris. Quelle est distance question ?
J'active le radar. Rien.
Il est trop loin pour mon radar. À plus de 10 000 km, je dirais.
Accélérer jusqu'à quelle vélocité, question ?
Disons, 3 km par seconde ?
On rejoindrait le spot A dans une heure environ.
3 000 mètres par seconde ? Accélération standard acceptable, question ?
Oui, 15 mètres par seconde carré.
Pousser 200 secondes. Commencez maintenant.
Je me prépare à encaisser l'accélération.